Bonjour, bienvenue. Merci d'être venu en ce jour de départ de vacances, de mauvais temps et de beaucoup de choses passionnantes à faire. Donc, bienvenue à cette rencontre autour de la question quelles éditions pour les jeunes cinéphiles, des jeunes cinéphiles au sens large, puisque nous parlerons de livres. Vous m'entendez là ? Je sais pas, moi je m'entends pas très bien, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, des livres destinés aussi bien aux jeunes enfants dès 6 ans qu'aux adolescents, aux lycéens, aux étudiants de cinéma, un secteur qui est tout jeune, lui aussi, puisque on peut presque dire qu'il est balbutiant, puisque hormis des expériences ponctuelles chez divers éditeurs, il y avait eu un livre comme ça chez Autrement, Quel cinéma, des livres de ci, de là, mais ce n'est que depuis quelques années que sont apparues des collections spécifiquement dédiées à la transmission et à l'apprentissage du cinéma au jeune public. Alors, pourquoi accompagner les premières découvertes du cinéma par le livre ? Comment écrire le cinéma à destination du jeune public ? Quel format de livre ? Quelle iconographie ? Quelles images proposer ? Dans quel format ? Entre le respect du format d'origine du cinéma et les exigences de la maquette, comment penser ces livres comme objets peut-être transitionnels entre enfants et adultes ? Quel problème ces livres posent-ils aux libraires ? Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ne savent pas toujours où les ranger. C'est autant de questions auxquelles tenteront de répondre nos intervenants à partir de leurs pratiques et expériences propres, des intervenants que je vais vous présenter. Alors, vous avez ici Nathalie Bourgeois qui a eu l'initiative de cette rencontre et qui nous invite dans ses murs puisqu'elle y dirige le service pédagogique de la Cinémathèque française. Elle co-dirige aussi la collection Atelier Cinéma, éditée par la Cinémathèque française et Actes Sud Junior, ce qui m'amène à Thierry Magnier, qui dirige la maison d'édition éponyme, Thierry Magnier, ainsi que les éditions Actes Sud Junior, où sont développées plusieurs collections sur le cinéma. Atelier Cinéma, donc co-dirigé par Nathalie Bourgeois, mais aussi Ciné-Roman, dont il nous parlera tout à l'heure. Charlotte Garçon, couleur prune, qui est rédactrice au Cahier du cinéma, également critique de cinéma à France Culture. Elle y produit aussi des documentaires radiophoniques sur le cinéma et elle a publié l'an dernier Amoureux dans la collection Atelier Cinéma. Chloé Marie, à côté d'elle, romancière pour la jeunesse et les adultes, qui dirige la toute jeune collection Medium Cinéma à l'École des loisirs avec 4 premiers titres consacré à Jacques Doyon. Carole Desbara, à ma gauche, écrivain de cinéma, actuellement et depuis quelques années directrice des études à la FEMIS. Elle est aussi l'animatrice du groupe de réflexion des enfants de cinéma, l'association bien connue qui met en œuvre le dispositif École et cinéma en France. Elle est aussi auteure à la rentrée de L'enfance au cinéma, apparaître dans la petite collection La petite bibliothèque des cahiers du cinéma. Et enfin, Malika Ferdjouk, en face de moi, qui est auteure de livres pour le jeune public. Alors, si vous avez des enfants, vous avez certainement ces livres à la maison. Elle a publié de nombreux romans pour la jeunesse à l'École des loisirs. Pas des livres de cinéma, mais comme on le verra, des livres imprégnés très largement du cinéma. Malika Ferdjouk qui jouera donc en quelque sorte le rôle du Candide dans cette discussion. Alors, formellement, cette rencontre prendra en un premier temps la forme d'une table ronde où chaque intervenant va s'exprimer pendant 5-8 minutes maximum, avec une dérogation pour Nathalie Bourgeois qui aura droit jusqu'à 10 minutes pour commencer. Je veillerai en tout cas à vous interrompre si vous vous étendez de trop, suite à quoi nous ouvrirons la discussion entre vous. Et enfin, pour conclure cette rencontre, il y aura un échange avec le public. Le tout devrait nous prendre dans les 1h15, ce qui évidemment passera très vite. À tout seigneur, tout honneur. Donc, c'est donc avec vous que nous commençons cette rencontre, Nathalie Bourgeois, pour d'abord peut-être nous expliquer pourquoi vous avez ressenti le besoin, pourquoi cette discussion vous a paru nécessaire dans le cadre des rencontres de Cinédition, et surtout pourquoi, pour vous, il est important de prolonger les ateliers pédagogiques de la Cinémathèque française par le livre, avec cette collection Atelier Cinéma, donc coéditée par la Cinémathèque française et Actes Sud Junior, et où vous-même, vous avez publié un livre qui est celui-ci, Grand Petit au cinéma.
Alors, cette rencontre, effectivement, moi, je la souhaitais parce que on a fait un constat en proposant cette collection à Actes Sud Junior, c'était qu'il existait très peu de livres sur le cinéma pour les enfants et les adolescents, et qu'en général, les livres, on écrivait sur le cinéma pour les adultes, pour les pédagogues, voire jusqu'à l'université, lycée, mais jamais avant. Et que, bon, d'une part, là, c'était c'était un manque à combler. D'autre part, qu'il y avait vraiment un développement de la littérature jeunesse qui était très inventive autour des arts, des beaux-arts, avec des collections thématiques chez plusieurs éditeurs, et que l'image de cinéma, elle, n'était pas concernée par cette floraison, cette inventivité, et alors que le cinéma est un réservoir d'images formidable et qu'on peut tout à fait avoir du plaisir à voir une image, à chercher un détail. Donc voilà, ça je pensais qu'on pouvait parler de ça et voir quels étaient les premiers frémissements donc d'écriture en direction des enfants et des adolescents. Ensuite, nous, c'est vrai que cette collection, elle vient à l'origine de cette collection, il y a l'action éducative de la Cinémathèque qui donc est mise en place depuis 15 ans maintenant à la Cinémathèque, et une situation qu'on connaît mais dont je redonne les grandes lignes, à savoir que maintenant, la cinémathèque virtuelle est illimitée pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les films sont accessibles. Et en même temps, on sait très bien qu'on ne peut plus compter sur le chemin des enfants en direction du cinéma. Parce que si les générations précédentes ont pu, comme ça, quand ils étaient enfants et adolescents, rencontrer le cinéma librement en allant voir dans toute leur diversité des films, dans des salles de quartier, maintenant, ça n'est plus possible. Parce que maintenant, tous les chemins convergent vers quelques films. Ces films, ils sont produits pour les enfants et les adolescents. Et ils sont très vite consommés, très vite oubliés. Donc il y a vraiment une nécessité dans laquelle s'inscrit l'action éducative de la Cinémathèque de créer d'autres chemins à côté de ces autoroutes, on va dire, médiatiques. Et ça, c'est aussi ce que fait l'école maintenant, ce que font les dispositifs nationaux, donc école et cinéma, collège, lycéen, et puis les structures culturelles. Donc, nous, on a choisi donc de donner ces repères pour un petit peu ouvrir le champ du possible, élargir la cinéphilie des jeunes gens et aussi les rendre un petit peu autonomes dans leur regard. On a choisi de travailler ça, surtout en faisant dialoguer les films entre eux. Ça a été vraiment le fondement de toute notre offre, que ce soit les programmations jeunes publics ou les ateliers. Ces ateliers, on les propose donc depuis la maternelle jusqu'au bac, et on travaille sur des montages d'extraits de films autour de motifs ou d'éléments langagiers. Et c'est vraiment cette mise en relation des film qui permet de lancer une pensée sur le cinéma. Et c'est à la suite de toutes ces expérimentations qu'on a eu envie de sortir un peu de l'enceinte de la Cinémathèque et de proposer des livres donc qui puissent être accessibles par tous et donner un petit peu à connaître ces essais-là. Parce que, j'insiste, mais ce qui me paraît vraiment important en ce moment, c'est que la rencontre avec le cinéma, elle va plus de soi, elle est plus simple, il faut l'organiser de manière très ingénieuse. Cette rencontre, c'est pas tellement la rencontre avec des films qu'il faut avoir vus, mais plutôt des films dont on pense, nous, que les jeunes spectateurs pourraient les aimer s'ils les voyaient. Mais il faut trouver les conditions de cette rencontre. Donc la collection, elle a été proposée à Actes Sud Junior, qui a très bien réagi avec enthousiasme. Ça, Thierry en parlera pour cette aventure, donc sans crainte. Et donc c'est un peu une aventure, parce que ce qui est nouveau, c'est qu'on a choisi de s'adresser donc directement aux enfants et aux adolescents, et de privilégier un lien intime, personnel avec le cinéma. On a choisi de faire une collection et pas des livres un par un, mais donc de développer comme ça autour de motifs de cinéma tout un faisceau de livres pour les enfants ou les adolescents qui peuvent accompagner justement la découverte du cinéma au fil des années. Et c'est aussi des thèmes souvent, ça me paraît important de le signaler, qui relie le cinéma à une expérience du monde. C'est pas le cinéma dans un coin, c'est aller à la découverte du monde par le cinéma. Par exemple, la peur, l'amour, la découverte de l'inconnu, la rébellion, comme sujet. Et alors, les enjeux, pour finir, les enjeux de ces collections, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est ouvrir des horizons cinématographiques, désigner des films. donner à imaginer ces films. Alors là, c'était vraiment une gageure parce que quand on présente des extraits de films, il y a un dialogue qui peut s'engager avec la salle, mais un film, un livre, ce sont des images fixes. Et il faut justement, pour retrouver cet échange, il faut vraiment miser sur le pouvoir d'évocation des images. D'où le soin qui est apporté à l'iconographie de chacun de ces livres, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle iconographie en faisant des photogrammes. Le soin aussi qui est mis à décrire des scènes, des séquences, des plans, pour qu'on puisse commencer à rêver sur les films, attendre les films, parce que l'attente des films, enfin, c'est vrai que l'attente des films participe de l'amour des films aussi. Et pour finir, donner aux jeunes lecteurs l'envie de faire ces liens entre ces films et de suivre pour ça un auteur. Donc chaque livre est écrit par un auteur et ça me paraît aussi essentiel qu'il y ait un point de vue. Quelqu'un qui écrive et qui entraîne derrière lui son lecteur, que ce ne soit pas un savoir neutre sur une question, mais quelqu'un qui choisit sur un thème de faire une traversée de film en film, de plan en plan, et qui, s'il ne dit pas toujours « je » dans le livre, en tout cas dont on sent la présence, et que cette traversée donc, qui va aider à former le goût des jeunes lecteurs, elle se fasse dans la légèreté. C'est-à-dire qu'on redoutait beaucoup mais là-dessus on était d'accord, mais des livres de savoir qui se met en scène, mais plutôt on apprend sans en avoir l'air, sans s'en rendre compte. On fait une balade de film en film. À la fin du film, on a comme ça une filmothèque qui rassemble tous les films qui ont été croisés et les autres à découvrir, tous les mots de vocabulaire qu'on a croisés, mais seulement ceux qui ont été nécessaires, pas le vocabulaire systématique. Et c'est cette petite balade qui ouvre sur un désir de voir des films, de faire des liens. Voilà. Donc c'est un petit peu, la profession de foi de cette collection. C'est plutôt une envie d'aller vers les films ou de reconnaître des films qu'on a pu voir et aimer, et qui vous amène vers d'autres films, parce qu'on prend soin quand même que ces films choisis dans toute l'histoire du cinéma aient aussi, aillent jusqu'à aujourd'hui, et un lien avec la cinéphilie des enfants et des adolescents qui peuvent les lire. Voilà.
Je vous présente les premiers titres parus. Donc j'ai montré le vôtre, là, Grand Petit au cinéma. Il y a aussi Un chat de cinéma de Ghislaine Lassia. Alors à chaque fois c'est écrit, hein, ça va de 8 ans à de 6 ans même, je crois, à 15 ans. Alors celui-là c'est dès 8 ans. Lanterne magique de Lodin Abo, dès 6 ans. La peur au cinéma d'Emmanuel Cietti, alors ça doit être plus âgé, voilà, dès 15 ans. Mais où je suis d'Alain Bergala, et on parlera tout à l'heure des amoureux de Charlotte Garçon. Alors Thierry Magnier, donc vous êtes le coéditeur, vous dirigez, je l'ai dit, vos propres éditions en même temps qu'Actes Sud Junior. Existe la collection Atelier Cinéma, mais aussi Ciné-Roman, on va en parler, des novélisations de courts-métrages en quelque sorte, accompagnées du DVD du film. Vous avez une très longue expérience du livre à destination du jeune public, puisque après avoir été enseignant, si j'ai bien lu, libraire, directeur de communication des librairies clés, responsable éditorial chez Gallimard Jeunesse, vous avez créé en 98 les éditions Thierry Magnier, vous y avez publié d'excellents livres dits pour enfants, on verra ce que c'est qu'un livre pour enfants, des éditions qui ont été intégrées depuis 2005 à Actes Sud, où vous dirigez, donc depuis cette date également, Actes Sud Junior. Alors, quelle a été votre réflexion, vous, sur le livre de cinéma à destination du jeune public, et puis comment vous avez accueilli la proposition de Nathalie Bourgeois?
Elle l'a dit très bien, je l'ai très bien accueilli. C'est très difficile de... Vous savez, on est toujours dans des positions, nous, éditeurs, on n'a qu'une envie, c'est de faire les plus beaux livres du monde, et toujours mieux, et toujours encore plus riches, et j'allais dire plus intelligent, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est un peu comme ça que j'aime bien voir les livres, c'est-à-dire que ce sont des vrais livres. C'est pas parce qu'on s'adresse à un jeune public qu'on doit faire du sous-livre. Et on est obligé de continuellement le répéter, de le redire, que cette littérature ou ces livres sont de vrais livres et de la vraie littérature. Donc c'est vrai que tous les sujets... Alors c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, je m'occupais particulièrement de tout ce qui était dans ma maison, de tout ce qui était fiction. Le fait d'avoir Actes Sud Junior me permettait de retrouver ce que j'avais connu avec Pierre Marchand chez Gallimard, tout ce qui était découverte et documentaire. Donc ça m'excitait un petit peu. Mais il y a tellement de choses de faites déjà depuis depuis 20 ans sur le documentaire, ça me semblait difficile de faire autre chose. En fait, j'ai l'impression qu'il est possible de faire autre chose avec des livres documentaires, puisqu'il s'agit quand même là de livres documentaires, mais je ne vais pas revenir dessus, puisque Nathalie les a excessivement bien présentés. Sinon, je pourrais rajouter et insister sur le fait qu'effectivement, ce sont des livres qui sont peut-être des fenêtres ouvertes. J'aime assez l'idée que des livres documentaires pour les enfants soient aussi, et même d'ailleurs pour les adultes, parce que moi, quand je les lis, j'y apprends plein de choses. Il y a plein de collections comme ça qui m'apprennent chaque jour des choses, c'est merveilleux. J'en oublie la moitié, mais je fais en sorte au moins de comprendre. Et c'est vrai que je pense que l'intérêt de ces livres-là, c'est ces rencontres. C'est-à-dire qu'on va donner un petit peu d'éléments, de fenêtres ouvertes, donc je disais d'espèces de choses qui vont titiller un peu la curiosité de l'enfant, l'adolescent et même de l'adulte pour aller plus loin. Hein. L'idée, c'est quand même toujours, j'allais même dire en fiction, c'est toujours aller plus loin après, quoi, qu'on fasse un peu marcher la comprenette et qu'on se dise pas à un moment, bon, on a lu le livre, c'est fini. D'ailleurs, ceux qu'on a lus comme ça, on les range. On n'en parle plus, on ne se souvient même plus du titre. Ceux qui nous ont ouvert la comprenette, ils nous ont obligés pratiquement à aller voir un film, à lire un autre livre ou à aller voir une exposition. Ça, à mon avis, ce sont de bons livres. Donc c'est vrai qu'on a envie de faire ces livres-là à chaque fois qu'on fait un livre. Moi, je fais à peu près maintenant, puisque j'ai une troisième maison qui rentre dans mon giron, c'est à peu près un livre par jour. Donc comme je les suis tous et que j'y tiens beaucoup, que ce sont mes bébés, j'ai envie que ce soit pas un livre de plus, mais de vrais livres. Alors voilà, donc cette collection, elle est un petit peu... Enfin, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi cette espèce d'ouverture. La deuxième chose, je peux peut-être parler des ciné-romans.
Oui, absolument. Donc voilà, un exemple de ciné-roman, Les Baisers des Autres de Karine Tardieu. Donc vous avez en première page un DVD.
Et voilà. Ensuite, alors ça c'est quelque chose. Ça c'est, par exemple, ça a été toujours pour moi, parce que je suis pas un spécialiste du cinéma, et loin de là. D'ailleurs, je suis spécialiste de rien du tout. Peut-être maintenant, je suis un vieux dans l'édition jeunesse, donc je commence à connaître un petit peu. Mais j'ai jamais compris comment on pouvait faire autant, en France et dans le monde entier d'ailleurs, de courts-métrages, aussi bons, des bijoux, des merveilles, enfin, des choses absolument extraordinaires. Enfin, tout le monde, et en plus j'imagine ici, tous les gens qui viennent nous voir connaissent bien ce milieu, il y a des trésors. Or, ces trésors, quand ils arrivent à être vus, c'est une fois dans un festival, parfois ils ont la chance d'avoir un prix, et basta. Et après, vous avez l'auteur que vous rencontrez. C'est comme ça que j'ai rencontré des auteurs.
Parfois à minuit à la télévision.
Voilà, parfois à minuit à la télévision. Et puis dans une chaîne qui s'appelle TV Short. J'ai vu ça. Voilà, je vous le conseille. Et alors, c'est vraiment une merveille. Et là, vous rencontrez des gens, des artistes, des créateurs qui vous ont fait un bijou. Et ils sont là, malheureux, seuls. À la fin, dans toutes les régions où on va faire des salons où il n'y a jamais plus personne, juste après, et on boit un verre de coca dans un verre en plastique, et là, tout dépité, et ce type a fait une chose énorme, et c'est fini pour lui. Je me dis, mais c'est pas possible, ça. Comment on peut faire ça? Comment on peut gâcher autant de talents? D'autant qu'aujourd'hui, tous les cinéastes connus et qu'on aime tous ont commencé par là, hein, et on fait des choses magnifiques. Et je me dis, mais merde, quoi. C'est pas possible. Or, quand on s'adresse aux ados et qui ont envie de... Bon, c'est vrai aussi, il y a la période ado, on a envie de faire du cinéma, quoi, hein, on a envie de prendre la caméra, on a envie de faire des choses. Voir des petits cours comme ça, c'est une merveille. Et puis, alors là, j'ai pris mon côté casquette. Quand j'étais plus jeune, j'étais enseignant. Je me dis, mais si j'avais eu à ma disposition de ces courts-métrages, on aurait pu faire un travail d'écriture, un travail de voilà. Et puis, donc, on a eu là, cette idée de ciné-roman qui était effectivement de trouver... Alors, malheureusement, on n'a pas le temps, et c'est François Martin qui s'en occupe chez nous et un petit peu avec moi, de trouver... Et alors, si des gens connaissent un court-métrage, une petite mairie qui s'adresse quand même plutôt aux jeunes adultes et aux adolescents, faut nous faire signe, parce qu'on est toujours à la recherche d'un petit trésor. Alors, la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce petit trésor, c'est qu'on demande un exercice de style quand même à son créateur, c'est de pouvoir novéliser sa chose. Ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire que quelquefois, ils ont une écriture excessivement cinématographique, magnifique écriture et dans l'image, mais quelquefois, ça tombe un peu à plat. Bon, Ceci dit, on est là aussi pour les aider et les guider à retravailler pour que ce texte tienne seul, sans la vidéo. Donc, et voilà. Et on sort ce livre, paf, comme ça, que nous, on trouve magnifique, évidemment, avec un texte et le DVD à l'intérieur. Et je suis allé plusieurs fois dans des lycées professionnels, par exemple, il y a une petite année, avec ces bouquins-là. Et là, je me suis dit, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné rien que pour ça. C'est la réflexion d'un ado boutonneux qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais lu de bouquin, il s'en foutait complètement, mais qui m'a dit « Ah, je l'ai lu parce que j'ai bien aimé le DVD ». Et là aussi, j'avais aussi dans l'idée qu'aujourd'hui, les adolescents, dès qu'ils vont voir un film qu'ils ont aimé, je pense au Seigneur des Anneaux et autres, ils s'achètent le bouquin pour le lire. Bon, alors on dit qu'ils ne lisent pas. Donc il y a peut-être une relation image-texte-image intéressante. Et là, le type me dit « Ah oui, mais là, j'ai remarqué... » Alors, un truc excessivement simpliste, mais ça suffit pour comprendre que ça fonctionne. Il a dit, par exemple, quand c'est l'automne et qu'il y a une feuille morte qui tombe et que voilà, il faut la décrire dans un livre, il me faudrait au moins 10 pages pour le dire. Alors que là, avec une image, je peux le dire, et ça dure quelques secondes. Voilà. Bon, alors qu'il n'avait pas, a priori, il ne connaissait pas forcément l'écriture ni la lecture, c'était quelque chose qui était pour lui très secondaire, il avait tout saisi entre ces deux écritures. Donc ça m'a plu, et donc on a continué. Mais on a beaucoup de mal, et beaucoup de mal aussi avec les producteurs qui ne lâchent pas forcément facilement les droits, etc. Parce qu'effectivement, on ne veut pas non plus avoir des livres trop chers pour qu'ils soient disponibles à tous les ados. Mais c'est... Voilà. Et à chaque fois, c'est toujours un coup de passion, un coup de... On se dit, allez, on continue. Alors, on n'en a que 5, hein, des ciné-romans. Des ateliers cinéma, on en a 6.
Plus 2 à venir.
Dont Rebelle, qu'on attend pour le mois de novembre. Et Rebelle, ça, si ce n'est pas, si c'est pas un titre qui devrait intéresser les ados, je ne m'y connais pas. Mais là, voilà. Et c'est à chaque fois des coups de passion, comme ça, en disant, attends, moi, j'ai adoré. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas un autre qui adore. Et là, j'ai une autre collection qui se met en route là, chez Magnier, en fiction, mais ça, je ne peux pas vous en dire trop encore. Mais c'est sur pour jeunes adultes ados aussi, sur le scénario. Et ça risque d'être bien. Je sais qu'il y a eu des trucs un peu ratés jusqu'à maintenant, mais là, ça ne sera pas raté, je vous l'assure. Et c'est fait avec des gens qui adorent ça, quoi. Donc ça, voilà, à chaque fois qu'on se retrouve... Mais quand je vous parle de ça, parce que là, on est dans le cinéma, etc., je crois que tout ce qu'on fait... Que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans le scientifique, c'est exactement la même façon. C'est-à-dire que rien ne change. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est une rencontre, à chaque fois, c'est une passion. Et si vous avez ces ingrédients-là pour faire le livre, ou le livre DVD, ou n'importe quel objet culturel, eh bien, à mon avis, si on a pris, nous, notre plaisir, on doit pouvoir le transmettre.
Bon, ben merci. Merci, Thierry Magnier. Donc, on attend... l'annonce officielle bientôt de la nouvelle collection. Alors, on va prendre un cas d'espèce à présent avec Charlotte Garçon, qui, je vous l'ai dit donc tout à l'heure, critique de cinéma au Cahier du cinéma France Culture. Alors, vous avez publié, c'était il y a quelques mois, Ces amoureux dans la collection Atelier Cinéma, un livre dont vous m'avez écrit dans un petit mot qui l'accompagnait quand vous me l'avez envoyé, que, je vous cite, « Le pari était qu'à 16 ans, aujourd'hui, on pleure devant elle et lui ». Et qu'on tombe amoureux de Monica. Alors, comment vous avez conçu et écrit ce livre, Charlotte Garçon ?
Conçu et écrit, je ne sais pas, c'est peut-être un peu... C'est toujours difficile d'expliquer sa propre pratique qui n'est pas théorisée pour écrire le livre. Mais il y a plusieurs choses qui se mettent en branle quand on essaye de faire un livre qui est assez court et qui, en même temps, qui nous renvoie à notre propre cinéphilie, aux sources plutôt de notre propre cinéphilie. Dans mon cas, c'est plutôt l'enfance que l'adolescence. Ça dépend des fréquentations qu'on a eues de salles et de ciné-clubs, de lycée ou avant. Mais en tout cas, reconnecter quelque chose et non pas sur le mode du souvenir, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimais bien à l'époque, et peut-être que... Bon, ça, je pense que c'est pas forcément la bonne solution, mais se reconnecter avec une expérience de cinéma. Et en fait, c'est exactement... la même chose que ce qu'on doit faire quand on est critique et qu'on est hors de la salle, qu'on est au grand jour chez soi et que la séance est passée et que maintenant on va écrire et on n'a pas autre chose que un souvenir d'expérience. Donc finalement, ça renvoie aussi à ce que c'est que l'écriture critique en général. Donc, d'accord, il y a une spécificité. Ça, il faut bien garder en tête que les gens qui nous liront, c'est justement censé être des gens jeunes, etc. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas avoir cette... enfin, c'est ce que disait, c'est ce que vous disiez aussi, des sous-livres ou des choses comme ça, ou des, peut-être des films plus faciles. Alors, on va choisir des films. Non. Si on commence comme ça, c'est vraiment le... Parce que soi-même, on se déconnecte de ce qu'on aime. Enfin bon, c'est... Voilà. C'est... Donc, pas se limiter du point de vue du choix des films, du corpus, que ce soit, bah oui, des films anciens ou supposés anciens, parce que quand ils sont en noir et blanc, bah voilà, ça tombe dans une catégorie. Moi, je parle autant de, je sais pas, de Titanic, de Spider-Man... que effectivement de Monica ou même de Mes petites amoureuses de Jean Eustache et se laisser déjà cette liberté là, je pense que c'est, enfin moi je trouve que c'est important, voilà, pas présumer qu'il y a un corpus pour les jeunes, mais que effectivement tout est ouvert. Alors Nathalie disait effectivement il y a une difficulté aujourd'hui peut-être pour les jeunes cinéphiles à accéder comme nous on a pu accéder à ces films. Oui, mais il y a le DVD, par exemple, qu'on n'avait pas, nous. Donc, il y a aussi des choses qui se réorganisent et qui sont des pratiques nouvelles. Et moi, j'ai pas de crainte, forcément, par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il est clair qu'on parle de films que les gens n'ont pas vus. Mais ça, tout le monde. C'est pas parce que ce sont de jeunes lecteurs. C'est parce que c'est toujours comme ça. Donc il y a ce lien entre ce qui est écrit et puis ce qui va être vu, ce qui a été vu, ce qui sera pas vu, mais il y aura l'image. Et alors là, le choix des photogrammes, enfin dans cette collection, l'auteur il participe même plus que participe. Et pour moi, ça fait complètement partie du livre. C'est pas du tout une illustration. Et j'espère que ça fonctionne quand on le feuillette. Mais en tout cas, oui, quelque chose se raconte quasiment avec les photos de films. Et j'espère aussi que peut-être ces livres, ils ne sont pas lus de A à Z, voilà, chapitre après chapitre, mais qu'ils sont picorés, à la limite qu'on les laisse traîner plus ou moins. Parce que je comprends aussi que, oui, se concentrer sur un livre qui est quand même sur quelque chose, in absentia, quoi, qui est pas, on n'a pas la télécommande à côté, bah c'est un type de lecture particulier. Donc les images, elles sont vraiment très importantes. C'est plus que des illustrations. Après, est-ce que ça marche ou pas, c'est, Et puis aussi, peut-être l'idée, bon, dernière chose par rapport à mon sujet... amoureux, j'avais un peu une crainte que ce soit un peu mièvre, en fait, pour tout dire, parce que bon, voilà, et ça s'adresse à des adolescents et la question de l'amour, elle est ni réglée, ni simple, ni pour nous-mêmes, et qu'il y a une dynamique et que je voulais pas l'aplatir en un thème, quoi. C'est-à-dire, oui, alors le cinéma, bon bah ça représente le monde, donc il y a l'amour, etc. J'espère que le cinéma est bien plus qu'un reflet de la réalité. Et puis, la question de l'amour, elle nous taraude. Et donc, je voulais essayer de rendre un peu ces inquiétudes, ces angoisses à l'intérieur du livre et dans le rapport qu'on a au film. Et ce que les films nous donnent de cette tension-là, quoi. Et comment cette tension se traduit aussi dans la forme. Donc, L'un des défis de ces livres-là, c'est de parler de comment les images sont mises en scène et sans théoriser, justement, sans faire du méta de la, mais quand même arriver à comprendre qu'il y a quelqu'un quand même qui les a mises ensemble et qui les a organisées. Et ça, je pense que c'est aussi important, pas forcément pour faire soi du cinéma. Je ne sais pas si le lecteur il va vouloir lui-même filmer, mais en tout cas se mettre à penser soit d'une manière critique, soit comprendre comment les choses sont faites. Et je ne pense pas que ça démystifie pour autant l'amour. Enfin, c'est pas regarder en fait. Cary Grant n'aimait pas du tout Ingrid Bergman, mais bon, il l'embrasse quand même pendant 3 minutes. Bon, j'espère que ça, c'est pas une façon de tout démonter pièce par pièce, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience, de la vision du film qui passe, quoi. Enfin, bon,
Non, c'est réussi. On a toujours envie de tomber amoureux en ayant lu votre livre.
Si je peux me permettre.
Je vous donnerai la parole tout à l'heure.
Gardez-le
en tête et on va continuer le tour de table avec Chloé Marie. Vous êtes romancière. Moi, je me souviens d'un très beau livre que vous aviez publié il y a 7 ans à l'Olivier. Ça s'appelait 17 ans. C'était vraiment un très, très beau livre sur l'adolescence. Vous avez créé donc tout récemment la collection Médium Cinéma à l'École des Loisirs, avec 4 premiers titres consacrés à Jacques Doyon, par exemple celui-ci sur Le Premier Venu. Quel est le principe alors de cette collection? Parce que moi, je dois vous avouer, étant journaliste de cinéma, je l'ai reçu, ce livre, enfin les 4 livres, au moment où j'invitais Jacques Doyon dans mon émission pour parler du Premier Venu. Alors, je n'avais pas du tout compris tout de suite que c'était un livre qui s'adressait à un jeune public. Alors, c'est peut-être tant mieux, j'imagine, de votre part, mais d'où vient cette collection? Puis, quel est son principe, son envie?
C'est vrai, je crois que ces livres échappent un peu à leur collection. Pour parler de la composition, il faut vraiment effectivement que je parle de l'origine de ces ouvrages. Et à l'origine, il y a la rencontre avec Jacques Doyon, qui avait donc proposé pour publication 2 de ses scénarios à l'École des Loisirs. Et cette rencontre, elle se doublait en fait d'une rencontre cinématographique, puisque moi, enfin très très personnellement, et je vous prie de me pardonner, c'était vraiment un cinéaste qui avait eu une importance déterminante dans mon adolescence, et donc il fallait en quelque sorte être à la hauteur de cette chance finalement de création, enfin puisque immédiatement il a été évident qu'il fallait créer un espace du livre pour faire entrer le film dedans, puisque le point de départ c'était vraiment de parler de 4 films de Jacques Doyon, donc Les Doigts dans la tête, Le Petit Criminel, Le Jeune Werther et donc Le Premier Venu, le dernier film de Jacques Doyon. Et cet espace, c'était plutôt un espace de l'ordre du sensible, puisqu'il y avait eu rencontre et chance. Et comme c'est assez rare, il fallait... Ça donnait la musique initiale. Donc c'était essayer de s'ajuster aux sensations suscitées par les films et essayer aussi que les idées contenues dans les films puissent s'incarner soit dans des écrits, soit dans des fictions de genres différents. Et c'est ainsi que ces ouvrages ont trouvé leur structure, puisque ces fictions, elles peuvent être aussi bien pédagogiques avec des analyses de séquences réalisées par de jeunes diplômés de la FEMIS, avec un regard à chaque fois sur une activité professionnelle liée au film, avec le regard de Jacques Doyon dans de longs entretiens, mais là, en fait, ça convoque effectivement différents champs. Et puis, il y avait cette idée aussi d'ouvrir un peu, de mêler les arts et qui est une sorte de comme ça de course de relais. Et donc la proposition a été faite à des auteurs de littérature de jeunesse ou de littérature générale d'écrire des nouvelles à partir de chacun de ces films. Donc Arnaud Catherine, par exemple, a écrit une nouvelle dans le recueil sur le jeune Werther. Il y a Éval Massy qui est auteur aux éditions Gallimard et à l'École des loisirs qui a écrit une nouvelle. Sophie Maurer qui est auteur aux éditions du Seuil qui elle s'est attachée au film Les Doigts dans la tête. Donc voilà, c'était essayer de construire une sorte d'objet un peu inidentifiable, un peu de l'ordre de la poésie, de l'ordre de la littérature et de l'ordre aussi en fait de la communauté. Enfin, montrer comment puisqu'il y a effectivement différents intervenants dans ces ouvrages, montrer que l'amitié au sens deleuzien peut encore avoir un sens, ce qui n'est pas certain de toute façon, non seulement dans le cinéma, mais aussi dans la société. Et donc, essayer comme ça d'offrir au livre cette possibilité-là. Là, c'est vraiment une tentative, une expérience. Peut-être que c'est un échec, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ce que je souhaitais faire à partir de ces films. Et permettre aussi aux jeunes lecteurs de découvrir de grands cinéastes, puisqu'on va continuer le travail avec d'autres cinéastes, le prochain étant Ken Loach. Donc, autre belle rencontre en perspective, tout en continuant aussi le travail avec Jacques Doyon, puisque nous sommes dans ces notions d'amitié et de communauté, nous restons serrés les uns contre les autres. Voilà.
Merci. Non, ben c'est pas un échec, hein. c'est une belle réussite. Ça, je vous le conseille vraiment. Suite du tour de table, donc Carole Desbarra, je le rappelle, directrice des études à la FEMIS, donc qui forme des critiques pour Chloé-Marie, et animatrice du groupe de réflexion des enfants de cinéma, qui publie donc des cahiers de notes, les fameux petits cahiers verts qui s'adressent plus aux enseignants qu'aux enfants, mais aussi vous publiez aux enfants de cinéma des cartes postales qui regroupent des photogrammes, du film, avec au dos le générique, l'histoire du film, les noms et les portraits des personnages principaux. Apparaître de vous, donc je le rappelle, l'enfance au cinéma dans la petite bibliothèque des cahiers du cinéma. Et alors, est-ce que tout ce qui vient d'être dit, ça recoupe à peu près vos réflexions, vos propres réflexions quant à la pédagogie, la transmission du cinéma au jeune public ?
Oui, je crois que c'est par là que je prendrai la question, mais quand même, je relèverai votre ironie, parce que, Antoine, je vous connais. Je ne forme pas des critiques à la FEMIS, formant des jeunes cinéastes qui font des courts-métrages et qui, je trouve, ont tout à fait intérêt à écrire des analyses de films sur des très beaux films, plutôt que de, en attendant leur prochain film, être vendeur chez McDo. Donc, je préfère vraiment qu'ils écrivent pour vous. Et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur quand je vois que Nicolas Briand écrit sur le jeune Werther et que je lis les premières lignes de son analyse et que j'ai l'impression de voir les premiers plans de son film de troisième année. Je me dis que bon, il y a une continuité. Voilà. Pardonnez-moi,
merci,
mais
Carole.
Je ne laisse jamais passer ça. Bon, effectivement, sinon la question effectivement de la transmission, elle est essentielle. Et c'est vrai qu'il faut la placer dans un contexte plus général où il y a le caractère d'urgence. Moi, je trouve que c'est ce que vous faites là, tous, c'est vraiment extrêmement important parce que il y a Charlotte Garçon a raison de dire que la cinémathèque idéale et virtuelle, elle est à disposition et qu'effectivement, on arrive à voir les films. Mais peut-être que ce qui est important maintenant de faire, c'est de trouver des moyens de transmission et, pour éviter le mot prescription, qui est quand même très laid, différent de ce qui s'est passé. L'époque des passeurs, l'époque des Serge Danet, des Jean Douché, qui ont formé des gens de ma génération par la parole, qui ont donné le désir à travers la France entière, en tout cas pour Jean Douché, de voir des films quand il est dans les ciné-clubs de province, cette époque, elle est révolue. Ça fonctionne autrement maintenant. Donc c'est vrai que passer par le livre pour donner envie de voir des films, ou par l'écrit en tout cas, moi je trouve que c'est extrêmement important. Sinon, si je reprends le terme de Nathalie, où effectivement ça n'est pas si simple de voir les films, tu ne parlais pas de disposition des films directement, mais d'avoir envie de se dire qu'un film de demi, c'est pour soi. C'est quelque chose qui va vous enrichir. Eh bien, effectivement, il faut bien se rendre compte que si des éditeurs, mais si aussi toutes les instances culturelles qui font du cinéma et qui passent du cinéma ne font pas ce travail-là, les enfants, le jeune public est condamné à voir un autre cinéma. Un autre cinéma qui est fabriqué, formaté, ce que vous disiez, pour lui et qui ne va pas l'ouvrir et qui ne va pas lui apporter quelque chose d'essentiel qui est ce que l'art peut apporter. Donc, que ce soit par le livre ou que ce soit par d'autres films, c'est vraiment essentiel. Alors, je vais parler très rapidement, je vous rassure, en deux temps. École et cinéma, donc, dispositif sous tutelle du ministère de la Culture du Centre national du cinéma, publie pour les enseignants ce qu'on appelle les cahiers verts. qui sont des textes faits pour accompagner le fait que l'on diffuse des films en salle, ça n'est pas rien, en salle, à travers toute la France, pour des enfants qui peut-être n'ont pas de salle de cinéma là où ils vivent. Donc il y a des enfants qui prennent des bus parfois, qui font 60 km pour aller voir un film. Le cahier est donc à destination des instituteurs qui sont également formés. Mais vous avez bien raison, la carte postale est très importante. Et elle a été bien pensée. Au départ, c'était un travail qu'Alain Bergala a fait avec l'association pour penser cette question de quel document, quel élément on donne à l'enfant. Et il y a un enfant ici qui est d'une sagesse absolue. Je suis tout à fait admirative. C'est notre auditrice la plus jeune. Eh bien, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut donner pour garder un souvenir du film. Et lorsque l'enfant va dans la salle, on lui distribue cette carte postale. C'est donc quelque chose qui est de forme allongée, dans laquelle, en haut, il y a, découpé selon pointillé, une carte postale avec une image particulièrement choisie du film pour essayer de garder un souvenir et que l'enfant soit la garde, soit l'envoie à quelqu'un d'autre. Il y a quelques éléments écrits qui sont extrêmement simples, qui sont d'une part le synopsis et d'autre part quelques éléments, mais vraiment réduits dans la quantité de signes, mais pas dans l'exigence, qui permettent à un enfant qui va de 4 ans à parfois jusqu'à juste avant la sixième, d'avoir des éléments de savoir sur ce film et qui lui permettent de garder par l'écrit et par l'image quelque chose de ce qu'il aura vécu dans la salle. Et c'est vrai qu'on apporte grand soin à cette, d'une part à la rédaction de ces textes, parce que c'est pas facile, on ne l'a pas encore dit, mais moi je trouve que je vous admire, c'est pas facile d'écrire pour les enfants, ça n'est pas donné, ça ne va pas de soi, enfin je veux dire, il y a des gens qui ont ce talent-là, et il y en a d'autres pour lesquels c'est un peu plus laborieux, il faut qu'ils fassent un effort là-dessus. Donc il faut être très attentif à cette question-là. Donc il y a ce travail d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que je fais sous le regard, j'espère indulgent, de mon éditrice qui est dans la salle, qui est un texte pour la collection des petits cahiers, des cahiers du cinéma. Vous savez que cette collection cherche à toucher à la fois un jeune public, mais aussi un public étudiant, je dirais, puis un public d'adultes éclairés qui a envie de s'intéresser au cinéma par le biais du savoir plus directement. J'en profite pour dire que moi, je suis très frappée par le fait que ce qui se passe, soit dans la novélisation, soit dans la collection que vous animez pour la Cinémathèque et puis pour vos éditions, c'est très fort parce que ça fait passer du savoir par la fiction. Et que la qualité, moi, je trouve des textes qui ont été cités, que ce soit celui de Charlotte Garçon, moi, je trouve par exemple le texte d'Emmanuel Sieti, voilà, je savais que je disais une bêtise, sur la peur au cinéma, c'est un élément dans lequel vous avez à la fois la connaissance précise, mais qui pourrait se retrouver dans des livres beaucoup plus à destination d'adultes, chevronnés et érudits, et quelque chose qui passe par le plaisir de la narration. Et donc là, il y a un savoir spécifique. Les livres qui sont faits pour les éditions des Cahiers du cinéma fonctionnent plus sur la frontalité du savoir. Donc, ce n'est pas l'enfance au cinéma, parce que c'est énorme. Je n'en suis pas capable dans si peu de pages. Mais c'est le personnage d'enfant au cinéma, ce qui est déjà énorme. Et je voulais juste dire que se pose la question de pour qui on écrit tout le temps, tout le temps. Moi, je sais que dès la première page de ce texte, je dis que je m'adresse à des personnes, des adultes qui voient des films. Je ne suis pas capable, parce que d'autres le sont, mais moi je ne suis pas capable de savoir comment les enfants voient les personnages d'enfants. Et ça, cette question de l'adresse, c'est vraiment une question, j'imagine, que vous vous êtes posée en écrivant. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire les livres, on le voit bien. On voit bien que la façon de tourner les pronoms personnels, comment vous vous adressez en tant qu'adulte à des adultes ou à des adolescents, c'est une vraie question dans cette littérature. Et moi, je trouve que c'est essentiel d'y faire face. Cette adresse, elle se fait par l'implication de l'auteur, mais elle se fait aussi, comme ça a été dit, beaucoup par l'iconographie. C'est vrai que l'intelligence de l'iconographie, c'est quelque chose qui permet d'avoir là aussi un savoir sur le cinéma. Quand vous avez 4 photogrammes de 4 films différents, 4 baisers par exemple, pour reprendre, ou 6 baisers, je ne sais plus, pour reprendre le livre de Charlotte Garçon, vous avez quelque chose d'un savoir sur ce que ces films ont apporté, et parfois une ouverture et une envie, moi je dirais une mise en appétit par rapport à des films qu'on ne connaît pas.
Merci, merci Carole. Malika Ferdjou, qui a patienté jusqu'à maintenant, vous donnera peut-être quelques clés d'adresse au jeune public. Pour vous présenter, je vais juste citer quelques lignes de votre présentation sur le site de l'École des loisirs, parce que ça dit tout ça très bien. Le site dit que vous avez vécu à Paris depuis votre petite enfance, que vous avez séché quelques films à la Cinémathèque pour aller suivre des cours à la Sorbonne. On peut dire que vous êtes incollable sur le cinéma américain, ses dialogues fameux et ses distributions pléthoriques, du western au polar noir, mais votre genre adoré, ça fera plaisir à Carole, reste la comédie musicale dont vous êtes capable, paraît-il, de chanter à tue-tête les airs les plus improbables. Vous écrivez par ailleurs des séries pour la télévision et puis vous avez publié plusieurs romans pour la jeunesse, depuis Les Joues Roses, Rome, l'Enfer, Sombre Citrouille, les quatre tomes de quatre sœurs, boum, taille 42. Et quand on lit vos livres, on se rend bien compte que vous baignez complètement dans le cinéma, puisqu'il y a beaucoup de références cinéphiles. Je crois que c'était dans Sombre Citrouille. Ça commence un peu comme dans Mais qui a tué Harry. Il y a plusieurs moments de cinéma comme ça qui arrivent dans vos livres. Alors, quel est votre sentiment par rapport à ce qui a été dit, vous qui n'écrivez donc pas directement sur le cinéma, mais complètement dans le cinéma?
Bon, alors je ne vais pas parler 10 minutes. Peut-être même pas 5. Ça qui est bien de passer en dernier, c'est on vous sera reconnaissant de faire court. Et je ne sais pas exactement dans quelle mesure en fait la part de cinéma intervient dans mes livres. Il me semble quand même que je me revendique quand même d'abord écrivain. C'est pas des scénarios. Ce que j'écris, c'est pas des scénarios, c'est des romans. Bien entendu, comme j'ai l'esprit totalement tordu par ma cinéphilie ancienne, j'ai forcément telle couleur qui va arriver, tel nom dans Les Joues Roses. Tati Tati Chef, c'est venu, mais totalement normalement. Je ne me suis même pas posé la question de comment j'allais appeler la grand-tante. C'est arrivé.
Il y avait des chats qui s'appelaient Ingrid et Roberto.
Oui, il y a Ingrid et Roberto, ce sont deux chats. Donc, mais en même temps, ce sont des références, je pense, qui ne sont pas trop lourdes. Je n'aimerais pas que le lecteur qui me lit se dise « Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?» J'essaye toujours que ce soit juste un petit plus, un petit clin d'œil et pas davantage. Voilà. Il y avait une chose qui m'a touchée sur ce que disait Nathalie Bourgeois tout à l'heure, c'est l'histoire du passeur. C'est vrai que ce n'est plus tellement possible. Et j'ai eu cette chance, en fait, lorsque j'étais adolescente, d'avoir deux profs de français absolument unique. Hein, il y en a un qui... alors ça, on ne le savait pas. Il le cachait soigneusement, mais on l'a su après. Il travaillait à Positif, par exemple. L'autre, son frère tenait une librairie, et cette librairie, c'était le Troisième Œil, et le Troisième Œil, c'était François Guérif. Bon, il y avait une espèce de... Voilà. On avait un ciné-club à un moment où il n'y avait pas tellement de ciné-club dans les lycées, donc on a découvert Billy Wilder, enfin bon... des tas de gens tout à fait à la fois subversifs parce que c'était une école privée catholique très un peu prosélyte, il faut le dire, et en même temps vous aviez donc ces profs qui étaient là et qui nous faisaient voir avec lesquels par exemple on montait des pièces de théâtre de Brecht, etc., alors qu'on était dans une école, voilà. Donc c'était assez amusant. À un moment, il y a en 74, qui était quand même aussi assez nouveau pour l'époque, on a eu du matériel vidéo. Donc on a fait des films. Voilà. Donc tout ça a fait... Et en plus, j'habitais juste, mais vraiment juste à côté de l'Action Lafayette. Donc voilà, j'étais vraiment cernée. Je ne pouvais vraiment pas y échapper. Donc mes visites à la Cinémathèque ont été très, très, très nombreuses. Voilà. Il y a des souvenirs que j'ai d'avoir croisé Langlois dans les escaliers, d'avoir, je sais pas, rencontré King Vidor, d'avoir rencontré Tay Garnett, enfin des gens comme ça. Bah, je me souviens de la rencontre avec Tay Garnett. Je regardais Scandale en première page, et puis on ne savait pas qu'il était là. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de, à la fin de la projection, une petite effervescence au balcon, tout au fond du balcon. Il y avait un vieux monsieur avec une dame. Il parlait anglais, et puis on m'a dit, ben voilà, tu vois, c'est Tay Garnett. Voilà. Bon, c'est idiot, hein, mais c'est des espèces de souvenirs comme ça, très très sentimentaux, un petit peu mièvres, mais voilà, qui sont assez forts en tout cas pour moi.
Voilà, donc pour en revenir à l'écriture et aux jeunes cinéphiles, je pense donc qu'effectivement, il y a une multiplicité des copies, on passe plus son temps à chercher ou à essayer de voir, je ne sais pas, comme un torrent, comme on pouvait le faire à l'époque, ou passer 3 heures ou 3 ans à se dire mais quand est-ce que je vais revoir le Douglas Sirk que j'ai vu en français, en noir et blanc à la télé, etc. Bon, j'aimerais bien le voir en couleur, en VO. Et, Bon, il y a cette multiplicité des copies, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a, oui, sans doute, quand même un travail de passeur à continuer d'une autre façon, avec une autre installation, d'autres manières. Je crois qu'effectivement, sinon, on sera en plein dans le danger de laisser nos chères têtes blondes et brunes sous la coupe des grosses choses qui ne sont pas forcément intéressantes.
Merci pour ce premier tour. Alors j'ai tout à l'heure, de manière très impolie, coupé la chic à Thierry Magnier, donc je vous la rends. Si vous vous souvenez de ce que vous vouliez dire à...
J'ai une mémoire de cochon d'Inde, donc ça va être difficile. Non, mais j'ai d'autres choses à dire maintenant.
Dites tout ce que vous avez à dire.
Maintenant, j'ai le droit. Non, parce que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Malika, sur la mièvrerie. Comment, justement, ça c'est très important. Quand tu dis ouais, ce souvenir qui peut-être paraît mièvre, mais le jour où tu l'as vécu, il était loin d'être mien.
Oui,
il t'a nourri toute ton existence. Et ça, très souvent, on l'oublie quand on devient adulte et qu'on s'adresse aux enfants. Quand on fait un truc qui peut paraître chez nous, parce que nous, vieillards et ayant tout compris, on dit « Oh, ça, c'est mièvre ». Mais c'est tellement une chose importante, quoi. Et c'est ça, les rencontres. Hein. C'est de voir ne serait-ce qu'un visage dans une fenêtre, c'est quelqu'un qu'on... Voilà, et ça, c'est important, et c'est ça qui nous tient. Donc, tout à l'heure, pourquoi vous m'avez coupé la chic ? C'était à propos de la collection Atelier Cinéma. C'est que ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'édition, c'est d'essayer que ce ne soit pas ni un directeur artistique, ni un maquettiste, ni un directeur de marketing qui va décider de ce qu'on va mettre en regard avec le texte. C'est-à-dire le choix des images. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup dans le droit où il y ait cette liberté. Et cette liberté, elle compte énormément. C'est-à-dire que c'est en ça que le livre devient un vrai livre d'auteur. Alors peut-être, pour les marketeurs et autres, on dirait oui, mais pour être plus flashy, plus sexy, plus je ne sais pas quoi. Mais pour ce que nous, on a envie de donner et de partager, c'est beaucoup. Voilà, c'est là où est la richesse de la chose. Alors peut-être que ça peut paraître, comme on a l'habitude et que nos yeux se déforment sur des choses épouvantables, ça peut paraître à côté parfois. Et c'est peut-être aussi la difficulté de lancer une collection, une lenteur à s'installer, parce qu'on a fait ce choix. Il est important.
Nathalie ?
Oui, ben moi sur l'iconographie, je ne peux que rejoindre ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, c'est l'auteur qui mène son cheminement par le texte et aussi par l'image. Moi, j'y travaille aussi de mon côté avec Emmanuel Sietti, justement, enfin, la petite équipe de la Cinémathèque. Parce qu'il y a pas mal de dialogues aussi dans l'élaboration de ces livres, donc des propositions d'images, les images des fois modifient un peu le texte. Enfin, il y a ces deux cheminements qui se font jusqu'au moment où le livre se trouve et où effectivement c'est vrai que le travail est différent, c'est-à-dire ça fait partie de ce qu'on a à dire sur le sujet, et l'illustration ne vient pas du tout dans un second temps. C'est-à-dire, ce qui est dit par les images n'est pas dit par le texte. Non, c'est comme les yeux et les oreilles au cinéma, c'est deux fonctions différentes, et donc ça rend l'élaboration des livres difficile. En même temps, parce que l'auteur s'engage, enfin, il me semble, l'auteur, enfin, même moi qui me suis pliée à l'exercice pour voir un petit peu de quoi il retournait, justement, on a tendance à s'engager dans une écriture, et puis après, quand même, à penser l'iconographie, même si on a fait tout en écrivant quelques photogrammes. Et là, il faut revenir sur l'écriture, il faut détricoter, il faut enlever, il faut. Donc, c'est assez lourd, ces livres sont assez complexes à mettre en place, mais au final, je pense que moi aussi, je pense que c'est des livres qu'on peut feuilleter, picorer, comme tu dis, lâcher, lire en partie. Puis ensuite, un jour, on se lance vraiment, on les lit en entier. Mais souvent, moi, quand je les donne je les vois entre les mains des enfants, les enfants les regardent, repèrent les images et heureusement, il y en a toujours qui connaissent. C'est-à-dire, ils disent « Ah oui, ça, je l'ai vu. » On accroche son piolet, on dit « Bon, ça, au moins, je connais. » Puis ensuite, on va pouvoir un petit peu cheminer. Et puis le texte vient après, en général.
C'est pour ça qu'il était important qu'il y ait ces petites parties comme ça qu'on peut déplier, qui sont des séquences, justement. Tu as rappelé que le cinéma, c'est quand même pas seulement des photogrammes.
Mmh. Oui, c'est une succession d'images aussi. Les dépliants, je pense que dans les prochains livres, la structure va un petit peu changer parce qu'on cherche, donc on s'autorise aussi à modifier un peu la forme. Il y aura toujours des analyses de séquences et plus d'annexes, comme je le disais. C'est la plus, en même temps, d'interruption du texte vers des ouvertures. Mais quand même, on retrouvera cette traversée possible à travers les 5 ou 7 chapitres.
Je veux dire que c'était très, très important que ce soit de vrais livres, surtout quand on touche au documentaire. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puisque le livre doit disparaître, vous savez, c'est fini maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on m'a appris que le livre allait disparaître. Et que maintenant, c'est le net, etc.
C'est comme le cinéma.
Voilà, le cinéma aussi, la télé, tout doit disparaître. Hein. Donc, tout doit disparaître, c'est un très beau titre. Mais l'important, c'est effectivement, quand on fait un livre documentaire, il faut faire très attention au problème du net. C'est-à-dire que si on veut traiter un sujet... à fond, très ludique. On a tout sur le net. On peut avoir des extraits de films, des interviews, toutes les images, des textes qui viennent de partout du monde, etc. Donc c'est vrai qu'on peut se nourrir de ça. Or là, mais où est l'analyse, où est l'intérêt? Là, il s'agit vraiment d'un travail d'auteur. Et comme on le fait aussi pour le cinéma, il y a vraiment une. Voilà, c'est important. Parce que sinon, on peut faire effectivement quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus festif, mais beaucoup plus people et sans intérêt.
Est-ce que je peux oui, juste... Nathalie. Parce qu'au début, vous aviez parlé d'une question et qui rejoint ce qu'on évoque là et qui est importante, c'est les libraires. Comment les libraires
Parce que moi, je
suis frappée du fait que, par exemple, la collection Atelier Cinéma, alors j'ai fait une petite enquête, après je suis allée voir des libraires, j'aurais un petit peu demandé, ils la placent, par exemple, à d'autres endroits que Medium Cinéma, et ils ne savent pas bien. Alors, bon, il y a la question des âges, donc entre enfants et adolescents, c'est les enfants qui gagnent quand il y a enfants et adolescents en documentaire jeunesse. C'est-à-dire que même un texte qui est écrit pour des adolescents se retrouve à côté de « je découvre les découpages ». Donc on se dit bon, « qui va aller chercher la peur d'Emmanuel Cietti ?»
Il y a la honte de l'ado d'aller encore traîner.
Oui, dans des petits endroits où il y a des caisses en rotin et des choses. Donc déjà, ça, c'est problématique. Le médium cinéma, j'ai vu que souvent... puisqu'ils s'appuyaient sur Medium, donc ils sont avec les livres littérature, ils sont en littérature, parfois ils sont en cinéma, mais en tout cas ils ne sont jamais en enfance. Non. Là, ils sont, voilà. Et donc ça a l'air d'être quelque chose aussi qui est en mutation, qui est, je ne sais pas effectivement, il n'y a pas de libraire dans la salle, mais ça me paraît vraiment important qu'il y ait une...
Y a-t-il un libraire dans la salle? Dénoncez-vous. Pas de libraire, il n'y a plus de libraire non plus.
Qu'il y ait une vraie réflexion, parce que ces livres peuvent aussi être très fragilisés s'ils ne sont pas là où on peut les espérer. C'est-à-dire, moi, je trouve que les livres de cinéma, déjà, on est heureux de les trouver en cinéma, les livres.
En fait, la tactique, c'est qu'ils soient à la fois en cinéma et en rayon jeunesse.
Ça,
ce qui est absolument impossible.
Voilà,
maintenant.
Je crois que c'est une...
Aujourd'hui, maintenant, le livre est devenu un produit et il est tout de suite analysé comme jeunesse ou cinéma ou adulte ou peu importe. Et donc, il ne peut pas, dans les grands magasins, il ne peut pas être à deux endroits différents ou trois endroits.
J'ai une question. Il ne peut pas être à deux endroits pour des questions de rentabiliser l'espace.
Oui.
D'accord.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites dire à vos représentants, Chloé-Marie?
Je ne leur fais rien. Je n'ai pas de mot d'ordre. Non. Je suis contre les mots d'ordre. Peut-être que pour Medium Cinéma, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que les ouvrages concernent des films qui sont faits d'adolescence, mais qui ne sont pas sûrs ou destinés aux adolescents. Donc,
C'est peut-être pour ça aussi que ces livres échappent, comme je disais tout à l'heure, au rayon jeunesse. Et quelque part, peut-être aussi qu'ils correspondent finalement à ce que je souhaitais. Parce que je travaille dans une maison d'édition qui publie des romans destinés aux enfants ou aux adolescents, certes, mais je crois beaucoup, je suis désolée, je suis très dans les années 70 entre ma communauté et mes idées partage, mais je crois à cette idée justement, enfin j'aimerais croire en tout cas, et même si c'est difficile, à cette idée d'un livre qui pourrait toucher tous les âges et qui... d'ailleurs, enfin, c'était Tournier qui parlait de ça, du livre qui pourrait être lu par des enfants ou par des adultes. Et donc, si dans les librairies, on pouvait effectivement n'avoir qu'un seul rayon, ça serait idéal. Donc, je ne suis pas inquiète, en tout cas pour l'instant, puisque les représentants n'en parlent pas véritablement. Enfin, je n'ai pas de retour. Mais j'aime bien cette idée, justement, que les livres de la collection Medium Cinéma soient dans le rayon cinéma.
Voilà. C'est le lot également aussi des médiums romans. Il arrive très souvent qu'on trouve un médium roman, mais totalement pas du tout là où on pourrait éventuellement l'attendre. Je me souviens d'une... Alors, c'était pas une libraire, c'était une bibliothécaire qui avait mis Rome l'Enfer chez les adultes parce qu'elle n'avait pas envie que ses jeunes lecteurs lisent. Alors que moi, je l'avais écrit quand même en pensant à mes jeunes lecteurs. Et puis, de toute façon, je l'avais proposé donc à une collection pour adolescents. Donc, ça leur était quand même un peu destiné. Donc, voilà, elle avait fait le choix de ne pas leur proposer. Donc, évidemment, c'était la mort du bouquin. Enfin, il n'a jamais été pris chez les adultes. Cela étant, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a rien d'indiqué sur la couverture. Il n'y a pas marqué plus de 10 ans, moins de 15 ans, etc. C'est souvent c'est assez dramatique d'ailleurs de voir que ça peut être un point de référence ça pour les adultes qui ont besoin de catalogage.
Non, puis ce qui arrive sur vos livres, c'est que moi je suis allée chercher ce matin pour préparer cette table ronde plusieurs livres et je suis allée chercher le Jacques Doyon dans ma colonne cinéaste par ordre alphabétique dans ma bibliothèque personnelle. Alors que les livres que vous éditez, je les ai trouvés dans ma colonne thématique du cinéma. Effectivement, et c'est vrai qu'ils apparaissent comme des livres autour, sur, avec Jacques Doyon. C'est vrai.
Ils vont être dispersés ensuite.
Mais non, c'est ce que je veux dire, effectivement. C'est vrai qu'il y a une question, il ne faut pas nier qu'on a affaire à une question de marketing aussi. Hein. Le livre, enfin, c'est pas devant vous que je vais apprendre à quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a affaire à des questions d'argent dans l'édition qui sont très, très brûlantes. Mais est-ce qu'on peut poser une question différemment ? C'est-à-dire,
vous faites ce que vous voulez, Carole, vous êtes ici chez
c'est-à-dire
vous.
C'est-à-dire que la question des films, des livres pour enfants, je trouve qu'elle recoupe une question qu'on s'est beaucoup posée à École et Cinéma, aux enfants de cinéma, qui est la question des films pour enfants. Et c'est vrai que quand on fait un travail qui, par exemple, avait commencé il y a bien longtemps avec un beau livre qui s'appelait « Cet enfant de cinéma », la question était très vite de se dire que quand on se tourne vers son propre passé d'adulte et qu'on cherche quels sont les films qui nous ont marqués quand on était enfant, ce n'était pas forcément des films dont les héros étaient des enfants. Donc c'est vrai que cette question-là, elle mérite d'être réfléchie autant pour le livre, je trouve, que pour le cinéma. Faire du cinéma à destination des enfants, c'est quelque chose qui souvent se solde par la mièvrerie dont nous avons tous très peur ici. Alors que les films dans lesquels il y a des enfants, mais qui ont un vrai rôle complexe, fort, eh bien, souvent c'est révélateur de la qualité de la mise en scène d'un cinéaste. Et ça montre que les grands cinéastes, eh bien, ils traitent les personnages d'enfants sans aucun lissage, avec complexité, avec parfois de la cruauté, avec toute l'exigence qu'on a envers un personnage qui pourrait être un personnage d'adulte. Donc c'est vrai qu'on a aussi, en plus sur la littérature, les textes enfin, littérature, pardon, les textes sur le cinéma à destination du jeune public, je trouve qu'on recoupe cette question-là. C'est comment on fait pour parler des personnages ou des films ou du cinéma qui touche les enfants à des enfants et à des adultes. C'est ce que je voulais dire par la question de l'adresse. Il me semble que c'est une vraie, vraie question que vous traitez, forcément.
Oui. Nous pour le corpus, les films qui, à force d'être vus et revus, il y en a d'abord des centaines, puis après, c'est des petits livres quand même, on ne peut pas tout mettre. Mais il y avait cette question de... C'est pas parce que c'est un adolescent que c'est l'amour au cinéma est plus intéressant parce que le personnage est un adolescent ou un enfant, non. Et d'ailleurs, quand on voyait les films, on rêvait d'histoires d'amour et de situations amoureuses entre adultes alors qu'on était enfant, enfin... Donc, c'est pas effectivement faire attention à ne pas confondre le sujet qui lit et qui regarde les films et comment il se projette et tout ça, et puis l'enfant ou l'adolescent en tant qu'objet de représentation. À la limite, on s'est aperçu par exemple, je dis on parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions dans la préparation de ces livres, autour du film Mes petites amoureuses, par exemple, de Jean Eustache. Que ça pouvait poser problème que le héros soit un enfant préadolescent de 12 ans, parce que c'est un drôle d'âge pour l'identification, en fait. Et ça, on s'en aperçoit quand on va dans des salles et qu'on parle avec le public, qu'on fait des débats autour de films, ou qu'on parle aussi à des enseignants quand on fait des ateliers. Il y a des âges comme ça, il ne faut pas croire qu'on s'identifie tout de suite parce qu'on a le même âge. Et donc, au collège, c'est Mes petites amoureuses de Jean Eustache qu'il faut voir. Et même, je dirais, pas du tout. C'est plutôt... Donc, c'est toujours... C'est assez...
c'est, en tant qu'éditeur, je crois que c'est notre problème quotidien, c'est d'avoir des adultes autour de nous. Quoi. À chaque fois qu'on a un problème avec un livre... destiné aux enfants, aux adolescents.
Comment vous faites, par exemple, pour décider, parce que c'est souvent écrit derrière, ben celui-là, c'est des 6 ans, celui-là, c'est non, des c'est, 12 c'est, ans, enfin, c'est incroyablement précis.
C'est,
en
non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que en fiction, c'est jamais noté, chez moi, ni chez Magnier, ni chez Actes Sud Junior. Cette collection, on a été obligé, c'est une des seules collections où je suis obligé de le mettre, parce que c'est une collection, alors ça, c'est très difficile à gérer, c'est une collection où certains ouvrages sont pour les 6 ans et d'autres pour les 15 ans. Donc, c'est compliqué. Habituellement, quand on fait une collection, on fait une collection pour les 15 ans ou une collection pour les 6 ans. Donc, on s'est dit, là, il va y avoir confusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tromper l'acheteur en disant, ah tiens, ça, c'est bien, ça, je vais prendre ça, c'est pour les 6 ans ou pour les... Vous voyez, c'est pas du tout... Donc, on a été obligé. Moi, je suis totalement contre mettre l'âge habituellement sur les bouquins parce que c'est excessivement difficile. Quelquefois, je mets plutôt... À la limite, je mettrais un niveau de lecture scolaire. C'est-à-dire que voilà, premier cycle, deuxième cycle, etc., ou de la primaire au collège, enfin bon, c'est un peu plus... Voilà, ça, c'est... Mais notre difficulté, elle est toujours dans la lecture. C'est les adultes, à chaque fois, qui posent problème. C'est jamais, jamais un adolescent ni un enfant. Vous savez, le livre, c'est une chose extraordinaire. Un livre, vous le prenez, s'il vous déplaît, vous le fermez et vous le rangez. Et un gamin n'est pas plus stupide qu'un adulte. C'est-à-dire que quand ça ne lui plaît pas, il ne le prend pas. Et s'il est choqué, il n'ira pas lire encore. Ou alors, s'il le lit en étant choqué, c'est qu'il prendra forcément un plaisir, donc faut le laisser. Et je crois que c'est, voilà, la difficulté, elle est là. Et on a eu aussi très très longtemps, en parallèle, pour les romans adolescents, par exemple, des années 70-75 aux années 90, maintenant ça se calme un peu, on avait ce qu'on destinait aux adolescents, c'était les romans miroirs. Voilà. Alors le roman miroir, c'est j'ai 12 ans, je suis une fille, donc le héros a 12 ans est une fille. Ça existe encore aux États-Unis. Hein, ils achètent encore les livres, ils nous achètent les livres en fonction de ça. Quel âge a le héros ? C'est un garçon, c'est une fille, donc moi je le mets dans la case fille de 12 ans. Donc ça c'est mortel, quoi. C'est tout sauf notre travail à nous tous, quoi. On est ailleurs, on est en littérature, on est dans un travail d'auteur, on est loin de tout ça. Mais c'est exactement, j'imagine, la même chose pour le cinéma, c'est-à-dire que oui, c'est on se retrouve bon. S'il n'y a pas d'enfant dedans, ça peut pas être pour un enfant. Si c'est l'histoire de deux vieillards, pourquoi montrerait ça aux vieillards? Et j'ai déjà vu des romans adolescents sur les vieillards qui sont d'ailleurs assez trash, c'est bien, et ça fait du bien aussi parce que les vieux, de temps en temps, pour un adolescent, c'est terrible. Et le besoin aussi d'exorciser ça, c'est pas mal. Mais ça plaît pas aux vieux, évidemment, puisqu'ils sont moches, vieux, sales, etc. Donc c'est Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc moi, de temps en temps, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'adultes qui achètent les livres. Le problème, c'est qu'on a rarement des enfants de 3 mois qui frappent à une librairie ou des gamins de 15 ans qui ont suffisamment d'argent pour acheter un livre. Donc voilà, donc il y a les autres qui sont autour.
Adresse aux enfants, volez de l'argent à vos parents et allez acheter vos livres tout seul. On arrive à la fin de cette rencontre. Je voulais savoir s'il y avait éventuellement des questions, des réactions dans le public. Il y a un micro qui circule dans la salle. Est-ce que vous achetez des livres sur le cinéma pour les enfants? Est-ce que vous avez envie d'en acheter? Quelqu'un a envie de dire quelque chose? N'ayez pas peur. Madame.
Moi, je vais juste répondre à votre dernière question. Oui, j'achète des livres sur le cinéma pour les enfants et les adolescents, parce que je travaille dans une médiathèque. Et que je suis aussi responsable du fonds vidéo pour les enfants. Donc effectivement, il y avait une grosse, grosse lacune. Et je trouve que les deux collections, enfin ciné-roman et atelier cinéma, je les ai tous achetés. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien. Après, c'est comment les utiliser maintenant avec les enfants, les classes, les enseignants. Mais voilà, mais c'est déjà très bien qu'ils existent.
Merci. Ben voilà, vous ne travaillez pas pour rien. Mais cette question-là, justement, c'est une question dont j'ai parlé avec Nathalie en préparant cette rencontre. La question aussi, parce que ça ne s'adresse pas uniquement à des enfants ou des parents qui vont les acheter pour les enfants, mais la question des médiathèques, des bibliothèques, des écoles qui pourraient les acheter pour accompagner les classes à dispositif cinéma, par exemple, ou pour accompagner des travaux. C'est un travail que vous faites aussi pour, je pense, pour les doyons, par exemple. C'est parfait pour les lycées qui préparent le bac cinéma, par exemple.
Oui, comme la collection est toute récente, c'est vrai qu'on est vraiment en train de faire nos premiers pas. Donc, mais c'est vrai que les professeurs de français, par exemple, sont vraiment intéressés par l'ouvrage concernant le jeune Werther. C'est presque une évidence. Et comme c'est vrai que comme chaque ouvrage offre le texte du scénario qui est aussi enrichi dans une approche littéraire pour qu'il soit aussi lisible. Et par ailleurs, à chaque fois aussi cette nouvelle écrite donc par un auteur, il y a cette possibilité en classe après de proposer aux lycéens ou aux collégiens d'écrire des textes à partir des films. Donc oui, bien évidemment, là, j'espère qu'il y a des passerelles, des ouvertures possibles.
Nathalie ?
Nous, on travaille effectivement à partir de ces livres. Moi, j'ai guetté les critiques aussi, hein, justement. J'ai demandé beaucoup qu'est-ce que vous faites avec ces livres à des enseignants, à des bibliothécaires, qui m'ont dit, parfois c'était très simple, mais ça dépendait un petit peu de la confiance avec laquelle ils approchaient les films. C'est un petit peu aussi le problème qui se pose pour des outils tels que les DVD de l'Eden Cinéma, qui ne sont pas des outils qui contiennent un mode d'emploi de comment les utiliser, mais des outils un peu plus bruts, je dirais, où il faut un peu d'initiative après pour s'en saisir. Donc pour certains, ça va sans problème, et pour d'autres, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas effectivement donné des pistes précises. Et donc certains m'ont dit, mais après ces livres, je ne sais pas comment, par où j'aborde ça, comment je construis ça. Ça demande un petit peu d'initiative. Donc nous, on le fait ici à la Cinémathèque. Et je pense qu'on pourrait aussi éventuellement parfois compléter par des indications via Internet, c'est-à-dire donner quelques pistes qui puissent aider un petit peu ceux qui sont hésitants à s'en emparer. Mais que peut-être aussi c'est une... une familiarisation, et puis il faut s'enhardir, quoi. Il ne faut pas hésiter à... Enfin, c'est ce que je disais, c'est des livres qui ne se veulent pas intimidants par rapport au film, donc à essayer d'y travailler. Moi, je voulais juste revenir par rapport à Malika Ferjouk. Je trouve que, alors, ce que vous disiez, c'est-à-dire que vos livres, effectivement, sont pleins de petits indices de référence à des films, mais on peut très bien ne pas avoir vu la règle du jeu et puis apprendre qu'ils vont tous dans une maison qui s'appelle La Collinière, voilà. Sauf que quand même, ce qui est vraiment, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qui se passe dans cette maison de la Collinière, c'est quand même une circulation, un effet comme ça, ça, dans tous les sens, tout le monde se poursuit. Et que quand on a vu le film, on profite vraiment de ça. Et je trouve que ça serait vraiment intéressant que des livres comme ça, qui sont effectivement de la littérature, mais puissent être lus et que les jeunes voient les films aussi.
Alors oui, parce que il me semble qu'il y a donc les références conscientes, et puis il y a tout ce qui m'échappe et qui forcément vient enrichir le roman. L'idée de la circulation, etc., je l'ai eue bien avant d'appeler la maison La Collinière. Et je ne pensais même pas à la règle du jeu lorsque j'ai écrit Sombre Citrouille. Et puis, à un moment, il a fallu donner un nom à la maison. Et je n'arrivais pas à trouver de nom. Et simplement, en revoyant la règle du jeu, voilà, quand il y a le carton d'invitation, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler La Collinière en enlevant le L. Voilà.
Mais quand je vous entends, moi, je vois mon vieux passé de prof de français remonter à la surface. Et je vois très bien comment, effectivement, des enseignants peuvent tout à fait jouer avec ça. Non, mais jouer avec ça. C'est-à-dire qu'une des questions qui se pose sur la place du cinéma dans l'institution scolaire, en dehors, je laisse la question des droits, qui est une question monstrueuse, mais passons outre, allons-y quand même, c'est comment on travaille entre le monde de l'image et du son du cinéma et le monde du texte. Et c'est vrai que c'est très, très probant quand on est, par exemple, dans des enseignements, dans ce qu'on appelle les classes de zones défavorisées, les ZEP, etc., de faire un aller-retour entre le cinéma et le texte. Parce que les enfants se sentent beaucoup plus libres face à un film que face à un texte. Et de passer de l'un à l'autre, que l'un renvoie vers l'autre, est un grand enrichissement. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que si on se sent libre de parler d'un film, parce qu'on croit que parce qu'on en a vu beaucoup, on est plus savant, ce qui n'est pas forcément vrai, mais qui au moins a le fait que la légitimité autorise la parole de l'enfant. Ça, c'est vraiment formidable. Du coup, faire un retour, mais pas un retour didactique, mais un retour qui est sur le plaisir aussi, vers le texte, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant en pédagogie. Et ça n'est pas... J'ai vu votre réaction sur « faut pas trop ». Ça n'est pas quelque chose qui est une dissection. Quand c'est fait avec pédagogie, oui, c'est quelque chose qui peut être tout à fait vivant. Et la masse de livres, la masse de films qui arrivent est terrible. Face à ça, un enseignant peut être un peu débordé par le quantitatif. Et avoir des lieux dans lesquels on lui propose des ouvertures, effectivement des livres déjà un peu choisis parmi tous les autres, des films choisis parmi tous les autres, et quelque chose qui peut vraiment aider aujourd'hui, je trouve, les jeunes enseignants.
Oui, mais ce que vous décrivez, Carole, c'est justement les médiathèques. Parce que, alors, égoïstement, en tant qu'auteur, l'idée qu'il y ait le livre et qu'autour, il y ait quelques suggestions de DVD qui ont été placées là, à la lecture du livre, etc., c'est presque la réalisation de l'idéal de ce qu'on voulait faire en faisant livre, c'est-à-dire aussi une programmation imaginaire, une programmation rêvée. Et donc la médiathèque, c'est ce lieu-là. En plus, c'est un lieu aussi où on picore et où on choisit parmi un choix qui est déjà une première sélection. Donc je trouve que c'est aussi un lieu vraiment passionnant pour ça.
L'idéal ou l'utopie serait qu'un enseignant de lui-même, après avoir lu un livre, puisse lui-même trouver toutes les références. Et c'est en ça que je suis diplômé des sciences de l'éducation, la pédagogie a été quelque chose pour moi d'excessivement important tout beaucoup de temps, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que tout ce qui était livre pédagogique était d'une stupidité absolument abominable. Le plus beau livre pédagogique qui puisse exister pour un enseignant, c'est celui qui s'approprie et par lequel il va dispenser sa discipline et sa pédagogie. Quand on lui mâche tout le truc, on lui retire tout plaisir, et l'adolescent ou l'enfant qui est devant le voit tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut l'aider, effectivement, mais bien sûr, je caricature et je suis un peu de la provoque, mais c'est quand même à lui de trouver ses outils qui qu'il s'approprie quoi, les siens. Il n'a pas besoin, normalement, enfin, s'il est normalement constitué, il devrait de lui-même trouver les références.
Voilà,
je ne sais pas ce que c'est. Oui, bah alors je marche à fond. Allez. Je ne sais pas ce que c'est un prof normalement constitué, mais c'est un métier, l'enseignement. Et c'est vrai que ça s'apprend. Et dans la formation, s'il y avait effectivement un travail qui permette aux enseignants, non pas de savoir les choses, mais de savoir où les trouver, les médiathèques, effectivement, c'est toute la formation qui se fait depuis une dizaine, quinzaine d'années des bibliothécaires est complètement différente de ce qui se faisait avant. On a maintenant un personnel qui est ouvert à tout ça et qui, justement, est très, très... qui aide véritablement. Mais encore faut-il dire aux enseignants, voilà ce que vous pouvez trouver comme aide. Et puis, il faut aussi, comme on l'a dit récemment, on s'est retrouvés, Nathalie et moi, auditionnés devant une instance absolument terrifiante qui est le Haut Conseil à l'éducation artistique. Et on disait ça, on disait qu'effectivement, bon, les jeunes profs trentenaires qui arrivent, ils arrivent avec une culture cinéphilique qui n'est pas celle qui a été décrite ici. Et je ne dis pas que c'est moins bien ni mieux, c'est juste différent. Et peut-être qu'il faudrait s'intéresser de manière un peu plus organisée à savoir ce qu'est cette culture. Moi, je disais par exemple, il faudrait que le ministère fasse une enquête, une vraie enquête de prospective. Il y a un département, hein, ça existe. Au ministère de la Culture et au ministère de l'Éducation nationale, ils savent faire des enquêtes, ça prend 3 ans. Et après, on a des chiffres et on voit un petit peu ce qui se passe sur quelle est la culture des jeunes enseignants. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Et donc, comme ils sont ni mieux ni moins bien que ce que j'étais moi quand j'avais 30 ans et que j'enseignais, mais qui sont vraiment différents, si on sait un petit peu ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient, je pense qu'on saura mieux dans la formation leur proposer les outils, non pas les films, non pas les livres, mais les outils pour y arriver. Enfin, c'est dans ce sens-là que je...
Une question-réaction dans la salle, madame.
Oui, excusez-moi, moi j'interviens en tant que parent parce que j'ai accompagné beaucoup d'enfants lors des sorties pendant toute l'année de 6 ans, 5 ans, 6 ans. Je voulais dire, sur la place des livres dans les librairies, par exemple, il faut pas perdre de vue que c'est quand même un peu élitiste, rien que la librairie. Moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits déjà dans les écoles. Il y a eu 3 sorties cinéma dans une année, c'est beaucoup et c'est bien. Il faut voir quand même des enfants n'arrivaient pas à pénétrer un film parce que c'était en noir et blanc et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et le noir et blanc, on avait vu Katia et le crocodile par exemple, et on voyait vraiment que c'était vraiment une question sociale. Les enfants qui fréquentent les librairies, qui sortent avec leurs parents, bon, bah, vraiment, ils avaient vu des Chaplin, ça passait très, très bien. Tous les autres qui regardent la télé et les dessins animés, qui ne vont pas dans les librairies. Donc, je pense que quand même, c'est au niveau des médiathèques, justement, que pour placer vos livres, il faudrait que ce soit là qu'il y ait un département fait avec cinéma... littérature, et parce qu'il y a quand même il faut éduquer d'abord les parents avant les enfants, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont petits, donc c'est pas eux qui décident. Et effectivement, si on guide un peu les parents dans les librairies, qui sont quand même fréquentées par le plus grand nombre, je pense, il me semble que c'est déjà un départ et que les libraires peuvent s'afficher ensuite. Je vais pas si j'étais claire.
Non, quelqu'un veut réagir à ces...
Enfin, simplement, c'est vraiment une question qui s'est posée aussi, puisque nous, on travaille à la Cinémathèque avec 2 publics. Le public du hors-temps scolaire, sur le temps libre, et en général, c'est, à part les centres de loisirs, c'est plutôt un public, oui, qui fréquente les librairies, dont les parents ont un niveau culturel, comme ça, qui ouvre les enfants à l'art, et puis le public scolaire, où là, on a des enfants qui viennent parce qu'il y a la volonté d'un enseignant, mais de milieux sociaux très différents. Et moi, une des questions qui s'est posée tout de suite, ça a été bon, de se dire, ces livres-là, ils sont faits pour être vendus en librairie, mais vraiment, il faut qu'ils puissent effectivement être lus par d'autres enfants. Et il faut que l'école, moi je pense aux médiathèques bien sûr, et à l'école, c'est les deux lieux où on peut faire connaître différemment à d'autres publics. Et c'est, pour moi, c'était très important, que, parce que c'est vrai qu'il y a une littérature jeunesse magnifique, mais qui reste comme ça pour un public très, très petit. Alors que je pense que quand on a fait ces livres, on les a vraiment pensés pour, comme nos ateliers, comme tout ce qu'on fait, pour tous les publics. Et en souhaitant que... C'est pour ça qu'il y a une petite ambiguïté. C'est-à-dire qu'on dit que c'est des livres pour les enfants, pour les adolescents, avant, en vente en librairie. Mais en même temps, on voudrait que... qu'ils aient une autre vie en médiathèque, à l'école, et même si ce n'est pas des outils pédagogiques, mais que pour qu'ils puissent concerner effectivement ces publics-là aussi, et pas seulement des publics privilégiés. Oui.
Oui, parce que je pense que les enfants, moi je l'ai observé, sont vraiment en demande, ils sont vraiment friands, ils se régalent. Katia et le crocodile, c'était l'ébullition dans la salle, ils sautaient de joie et de bonheur, et c'est un très très beau film important, autant pour les adultes que pour les enfants. Je pense effectivement il n'y a pas de frontières entre les adultes et les enfants sur des choses qui sont bien faites, sur des Chaplin, sur ce film Katia et le crocodile qui a vraiment plu. Mais toujours pareil, tout le monde n'a pas pu vraiment le pénétrer. Et bon, c'est...
Ben merci.
Dommage, c'est à travailler. Je pense que c'est vraiment très, très important, parce que je vois que les enfants qui sont justement gavés d'images, de couleurs, et tout, enfin, vraiment, ils perdent quelque chose, et ce n'est pas leur faute à eux, parce qu'eux, ils sont vraiment en demande dès que... Moi, j'ai amené des enfants comme ça, voir des retours de flammes, et ils sont ravis, ravis, ravis. Et s'ils ont un suivi en plus en livre qu'ils pourront amener chez eux, c'est extraordinaire pour eux, parce que la vidéo, c'est pas pareil. Il faut encore demander la permission aux parents, alors que le livre, il est à soi.
Merci madame. Dernier mot peut-être de conclusion, puisque Katia et le crocodile, c'est un film d'école et cinéma. Dernier mot Carole Desbarra.
Mais moi, je suis ravie de ce que vous dites, parce qu'effectivement, que ce soit Chaplin ou Katia et le crocodile, il y a toutes les chances que vous ayez été dans l'opération école et cinéma, dans ce que vous décrivez là. C'est la même chose qui se fait, je pense, ici à la Cinémathèque, lorsqu'on montre des films à des enfants. Il faut savoir qu'on forme les personnes qui accompagnent les enfants, les instituteurs, les professeurs des écoles. On les forme au sens où régulièrement on leur propose, c'est pas grand chose, hein, c'est 3-4 jours par an dans lesquels on montre les films, dans lesquels on travaille la question du rituel, qu'est-ce que c'est qu'une salle de cinéma, comment on amène les enfants, comment on leur parle avant qu'ils ne viennent, on leur dit c'est un espace différent, vous franchissez la porte, vous êtes ailleurs, et donc il y a un comportement différent. Et tout ça, ça se prépare et ça s'organise. Et quand je parlais de formation tout à l'heure, c'est dans ce sens-là. Et ça donne des résultats. Ça donne des enfants qui voient au bout de 2 fois un film en noir et blanc, voire un film japonais, et avec, s'ils sont en âge de lire, un film en japonais sous-titré, à la condition qu'il n'y ait pas trop de sous-titres, qu'il n'y en ait pas une quantité trop difficile à lire. Et je pense que sur la lecture, il y a la même chose qui se fait. Je veux dire que les enseignants qui portent des livres, qui portent des livres vers les enfants et qui leur proposent quelque chose, on rejoint ce que disait Nathalie tout à fait au début de la table ronde, quoi. On propose des rencontres avec des œuvres d'art, quoi. Il me semble que ce qui est très, très important, moi, ce que j'ai entendu dans tout ce que tout le monde disait, c'est l'exigence. C'est qu'il ne faut pas baisser le niveau. C'est pas parce qu'on simplifie la syntaxe, c'est pas parce qu'on simplifie un certain type d'approche technique que pour autant on baisse le niveau. Moi, j'ai toujours été très frappée par ce que disait un grand pédagogue qui s'appelle Deligny. Il disait « Ne vous penchez pas sur les enfants, vous risquez de tomber ».
Merci, merci. On va devoir conclure cette table ronde, mais vous pourrez venir à nouveau discuter avec tout le monde en dehors de cette salle. Non, juste quelques rendez-vous des signatures demain. Jacques Doyon signera à 17h les livres dont nous avons parlé de l'école des loisirs. Et puis en même temps que Charlotte Garçon, qui sera sur la table d'à côté pour signer Amoureux. Et puis aussi une journée spéciale demain pour le jeune public, un atelier cinéma amoureux autour du livre de Charlotte. C'est demain à 11h dans la salle d'Auteuil-Isner. Et puis encore des belles rencontres demain. La critique de cinéma et le défi Internet. Littérature et cinéma avec Antonio Tabucchi. Et puis écrire et éditer l'histoire du cinéma aujourd'hui. Une précision.
Oui, juste Chloé Marie signe aussi les livres.
Pardon, je n'ai pas toutes les informations. Mais donc voilà, vous les verrez tout ensemble. Merci à tous. Et voilà, bonne fin de journée.